Alors, qui se souvient de cette campagne de publicité qui visait à sensibiliser tout un chacun sur l'impact de nos déchets? Il y a quelques années, on voyait des affiches comme ça un peu partout, dans les gares, le métro, etc. Alors, on voit ici cette boîte de conserve où il y a écrit dessus « Jeté par Kevin Brognard le 12-10-1999 ». Et nous, quel type de traces voulons-nous laisser de notre passage sur cette terre? Quelle influence avons-nous, notamment vis-à-vis des générations futures? Quel exemple, bon ou mauvais, allons-nous laisser derrière nous? Alors, comme Michael vient de le rappeler, ces derniers temps, nous sommes dans une série de messages sur le thème de la famille, des familles remplies de l'esprit. La famille, c'est le premier niveau social. Ce n'est pas le groupe Facebook. C'est le cadre prévu pour que les enfants puissent grandir et s'épanouir. Et ce cadre, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est de plus en plus fragilisé dans une société où on mise tout sur l'individualisme plutôt que sur le groupe. Et c'est quelque chose qui influence même jusque dans nos églises. Satan sait que la famille, c'est une cible stratégique. En visant les familles, on va pouvoir détruire l'Église. Du moins, c'est ce qu'il croit. Mais en tant qu'Église, on est aussi une famille. L'Église est aussi un cadre dans lequel on est appelé à grandir et à s'épanouir, spirituellement, relationnellement. Peut-être que ce matin, vous vous dites que ce thème de la famille, ça ne vous concerne pas trop ou plus trop. Peut-être que ça vous ramène à des souvenirs douloureux, à des expériences malheureuses, à une souffrance solitaire. Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais vous dire que c'est un mensonge que le diable veut vous faire croire. Il prend un malin plaisir à vous enfoncer la tête dans l'eau. Il veut nous faire croire que nous ne pouvons pas la ressortir et reprendre notre souffle. Mais si déjà vous prenez conscience que c'est un mensonge, vous ne serez déjà pas venu pour rien ce matin. Sachez que Jésus est là, il vous tend la main pour vous tirer de cette emprise du mensonge. Il veut vous sortir la tête de l'eau. Alors, quelle que soit votre situation sociale, vous êtes appelé à faire partie de la famille de Dieu. Ce qu'est l'Église. Et dans ce cadre-là, vous êtes appelé à grandir et à vous épanouir. Et aussi à pouvoir aider les autres à grandir et s'épanouir. Le sujet d'aujourd'hui nous concerne donc tous, d'une manière ou d'une autre. La transmission de la foi, qui est le thème d'aujourd'hui. Au début, j'étais censé parler de la transmission de la foi aux enfants. Et plus j'y réfléchis, plus je me suis rendu compte que ça ne se limitait pas aux enfants, mais que c'était plus large. Alors aujourd'hui, je vais parler en deux parties. Première question, mais de quoi parle-t-on quand on parle de transmission de la foi? Et ensuite, comment on peut faire concrètement? Transmettre la foi, de quoi parle-t-on? Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la foi? Et dans la Bible, on a une sorte de définition dans l'Épître aux Hébreux qui dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Alors en français, on a un problème de vocabulaire. C'est que le verbe qui correspond au nom foi, c'est croire. Et le verbe croire, ça peut aussi se rapprocher à un autre nom qui est la croyance. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. La croyance, c'est quelque chose qu'on peut comprendre comme quelque chose de vaguement théorique ou idéologique. Mais la foi, c'est plus que quelque chose d'intellectuel. Dans son livre Pour que la foi de l'enfant grandisse, l'auteur Francis Bridger développe une foi en trois dimensions. La foi croyance, la foi confiance et la foi action. C'est un peu comme un tabouret à trois pieds. Il faut bien ces trois pieds pour qu'il y ait un minimum d'équilibre. Alors, pour la foi croyance, je pense que ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Je me contenterai juste de citer le verset 6 du même chapitre que je viens de citer dans la lettre aux Hébreux, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi-croyance, c'est la base, quoi. Derrière la foi, il y a un deuxième aspect important, c'est la confiance. Par exemple, si je dis que je crois que notre trésorier est honnête, ce n'est pas juste une croyance théorique. J'ai confiance en sa probité, en son honnêteté, en sa responsabilité pour gérer les finances de l'Église. J'ai confiance aussi en Adeline, qui déploie toute son expertise en comptabilité pour tenir les comptes et qui a montré combien elle le fait bien depuis toutes ces années, et je la remercie aujourd'hui encore. La foi, confiance. Et la troisième dimension de la foi, que j'ai évoquée juste avant, c'est l'action. Si on a foi en quelque chose, si on a confiance, ensuite on est capable de faire une action qui est cohérente avec cette confiance. Par exemple, imaginons qu'un enfant a grimpé à un arbre et il se retrouve sur une branche, il ne sait plus comment descendre. Il appelle au secours, son père arrive et il lui dit « saute dans mes bras ». Si l'enfant a confiance en son père, il se dit que s'il lui dit de sauter dans ses bras, c'est qu'il va le rattraper. Et donc, l'enfant saute, il montre que sa foi n'était pas juste une croyance théorique. « Oui, je crois que tu peux le faire, papa, mais tu peux pas aller chercher les pompiers plutôt ?» Alors, une autre petite histoire qu'on m'avait racontée, je la raconte un peu de mémoire. On est à une fête foraine sur un stand et le présentateur harangue la foule en disant « Voici Brutus, l'homme le plus fort du monde. Venez voir sa force surhumaine. Qui d'entre vous croit que Brutus peut porter cette enclume de 100 kilos à bout de bras pendant 3 minutes ?» Une dizaine de mains se lèvent. Ok, alors qui est volontaire pour venir s'asseoir au pied de Brutus pendant qu'il soulève cette enclume? Et là, curieusement, on n'a plus de volontaires. Tout à coup, on a une petite main qui se lève, un petit garçon qui vient, qui ose relever le défi de se mettre sous l'enclume. Alors, est-ce que c'est de l'insouciance ou est-ce que c'est une véritable preuve de foi? En tout cas, je pense qu'en matière de foi, les enfants ont beaucoup à nous apprendre. On peut dire que la vie, c'est l'école du doute. Et la foi est quelque chose qu'on a besoin de réapprendre. Alors, pour conclure sur la définition de la foi, je dirais qu'une simple croyance théorique ne sert pas à grand-chose si elle n'est pas suivie de la confiance et du passage à l'action. Et je ne résiste pas à l'envie de vous citer l'apôtre Jacques, qui reprenait des chrétiens qui voulaient dissocier la foi et les œuvres. Il leur dit ceci. « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. » Et il tremble. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Alors la foi, oui, mais la foi en quoi? En qui? C'est bien beau de parler de foi, mais ça n'a pas trop de sens si on ne s'intéresse pas à l'objet de notre foi. Ici, on parle évidemment de la foi en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et ce n'est pas juste une croyance en son existence, mais c'est la confiance en lui et le fait de mener une vie conforme à cette confiance en Dieu. Aujourd'hui, l'objet de la foi le plus à la mode, ce serait plutôt la foi en soi-même. Crois en toi-même, crois en tes rêves. C'est ça le genre de message qu'on va plutôt entendre dans les films, les dessins animés, etc. Dans le vocabulaire courant, on a tendance à faire la distinction entre les croyants, les non-croyants. Une fois, mon kiné m'avait dit « Ah, vous êtes croyant ?» Mais j'aime pas trop cette question, j'aime pas trop cette distinction. Je vois plutôt les choses autrement. Je pense qu'on est tous croyants d'une manière ou d'une autre. La question, c'est en quoi est-ce qu'on croit ? En quoi est-ce qu'on a placé notre foi ? L'athéisme, ce n'est rien d'autre qu'une croyance aussi. Et être athée, c'est être croyant en l'inexistence de Dieu. Mais c'est être croyant aussi. Et donc, ce n'est pas plus rationnel que de dire qu'on est athée, puisque c'est juste une autre forme de croyance. Alors, maintenant, transmettre la foi, qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait dire simplement que c'est faire en sorte que quelqu'un d'autre ait la même foi que nous. C'est-à-dire qu'il ait foi en la même chose, etc. Ça veut dire que cette personne croit avec son intellect, qu'elle ait pleinement confiance et qu'elle agisse en cohérence avec cette foi. Mais au final, le plus important, c'est bien ce qui va se voir dans la manière de vivre. Si la foi a été transmise, on va le constater dans notre comportement, donc comportement de la personne à qui ça a été transmis. Ce n'est pas juste une démonstration intellectuelle. Transmettre la foi, ce n'est donc pas une démonstration au tableau avec des belles formules mathématiques. Ce serait bien plutôt montrer l'exemple, comme ici, cette maman qui montre à des enfants comment on pile. La vie chrétienne découle d'une confiance solide en celui qui tient le monde dans ses mains et à celui qui s'est sacrifié par amour pour nous. Et ça, ça calme. Question suivante. À qui transmettre la foi ? Et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais censé parler de la transmission de la foi aux enfants, mais que j'ai trouvé qu'en fait, c'était plus logique de parler de transmission de la foi de manière beaucoup plus large. Alors bien sûr, c'est super important de consacrer vraiment beaucoup d'efforts à transmettre la foi aux enfants. Ils ont tout à apprendre dans la vie. La foi fait partie de ces choses-là. Mais si on ne se limitait que à transmettre la foi aux enfants dans les familles chrétiennes, je pense qu'aucun d'entre nous ne serait là ce matin. Il y a une responsabilité de transmettre la foi au-delà de nos familles. La foi chrétienne est un héritage qui vaut pour les personnes de toute culture, quel que soit notre âge, quel que soit notre groupe social. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Manu aime bien rappeler pendant les annonces que nous sommes une église multiculturelle, multigénérationnelle et multisociale. Eh bien, c'est ça. La foi, ça concerne tout le monde et c'est pour ça qu'on le vit dans l'Église. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire dans l'un de mes derniers messages que la raison pour laquelle notre monde d'aujourd'hui n'est pas encore détruit, malgré toutes ses souffrances, c'est que Dieu fait preuve de patience pour laisser une chance à ceux qui ne se sont pas encore tournés vers lui, qui ne lui ont pas encore demandé pardon, qui ne sont pas encore réconciliés avec lui, pour leur donner une chance d'être sauvés. Et l'Église, c'est le moyen privilégié de permettre à des gens de rencontrer Dieu. Alors, la transmission de la foi, c'est bien une question de famille, mais pas juste la famille au sens du foyer parents et enfants. Aussi, au sein de la famille de Dieu, ce qu'est l'Église. Alors, pourquoi transmettre la foi ? Vous avez pu le comprendre, c'est qu'il y a urgence. Cette foi en Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Vous êtes entré dans une église évangélique, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le message de l'Évangile est au centre. Et ce serait un drame si vous sortiez d'ici sans avoir entendu ce message de l'Évangile, qu'on peut résumer par cette citation de l'Épître aux Romains. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. L'Évangile, c'est le message du salut. Mais être sauvé de quoi ? De notre vaine manière de vivre. Être sauvé de la souffrance quotidienne à laquelle nous sommes confrontés, de la culpabilité d'être pécheur, d'avoir désobéi à Dieu, d'avoir raté notre vie, de la mort éternelle qui nous attend inéluctablement. Et il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à cette fin-là. Ce n'est pas le mérite qu'on va pouvoir acquérir par nos bonnes œuvres, non. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, c'est un cadeau. La seule manière de le recevoir, c'est la foi. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Transmettre la foi, c'est donc une nécessité impérieuse. Ça ne peut pas être une option pour certains chrétiens. Voici le grand ordre de mission que Jésus avait donné à ses disciples avant de remonter au ciel. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en dire plus pour vous convaincre de l'importance de transmettre la foi en Dieu. Mais en tout cas, on va passer à notre deuxième partie, qui va être beaucoup plus pratique, pour dire bah, comment faire ? Mon objectif ici, ce n'est pas qu'on ait une liste de trucs « Oh, j'aurais dû faire ça, il faudrait que je fasse ça, oh, mais je ne vais pas y arriver. » Non, c'est qu'on soit reboosté, remotivé, qu'on sorte d'ici en disant « Ah ouais, c'est génial, j'ai envie de faire ça. » Ah ouais, la transmission de la foi, c'est tellement important. J'ai envie de parler à telle personne, j'ai envie de faire ceci, etc. Et je vais commencer avec un exemple. Celui du peuple d'Israël. Au sens large, tant l'Israël biblique que l'Israël contemporain. Plus j'y pense, plus je trouve que ce peuple est incroyable. Est-ce que vous connaissez beaucoup de peuples qui sont complètement dispersés, dépossédés de leurs terres, persécutés partout dans le monde, et qui, 19 siècles plus tard, sont capables de reconstruire un État avec une culture commune, une langue commune qui était une langue morte. Imaginez qu'on se mette à reparler latin aujourd'hui. Alors mon propos ce matin n'est pas faire un débat pour ou contre le sionisme. Simplement, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine ce matin, c'est de relever les forces de ce peuple et de comprendre ce qui a rendu cela possible. Alors bien entendu, la première force de ce peuple, c'est le Dieu qu'il a choisi comme son peuple. Et ça, c'est ce qu'on peut lire dans la Bible. Et pour comprendre comment ce peuple a pu persister si longtemps, il faut regarder ce qui en fait son ADN, la loi, ou plus exactement, la Torah. Et je vais donc vous emmener maintenant dans le Deutéronome, le cinquième livre de la Bible, ou cinquième livre de la Torah, qu'on appelle aussi le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de la Bible. Le contexte de notre passage, c'est... je vais essayer de me faire mumuse avec ça. Donc, le peuple d'Israël avait erré dans le désert pendant 40 ans. Quand ils étaient en Égypte, ce que Dieu leur avait promis, c'était d'entrer dans ce pays Canaan où coulait le lait et le miel, sauf que, vu que le peuple a râlé, ça a pris 40 ans de plus à faire plein de détours avant d'arriver dans ce pays. Et donc on se situe maintenant juste à l'entrée du pays. Et avant d'entrer dans ce pays, Dieu voulait rappeler à son peuple quelle était la loi. Deutéronome, ça veut dire étymologiquement, deuxième loi, ou plutôt redite, ou rappel, ou révision de la loi. On peut comprendre qu'entre quand la loi avait été donnée dans le désert du Sinaï et 40 ans plus tard, ben les plus jeunes, ils n'avaient pas connu cette première explication de la loi. Et c'était très important que le peuple soit pleinement conscient des termes de l'alliance qui le lie à son Dieu. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et que tu respectes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de ta porte. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ce texte, c'est le début de du credo du peuple d'Israël, de sa confession de foi, le Shema Israël. Tout juif connaît cette prière par cœur. Il la récite au moins deux fois par jour, en se levant le matin, en se couchant le soir. Il la récite aussi dans certaines occasions. Donc, c'est presque le texte le plus connu de l'Ancien Testament. Vous connaissez peut-être encore mieux le verset suivant. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » On se souvient que c'était la réponse que Jésus avait donnée à un pharisien qui voulait le piéger. Quel est le plus grand commandement ? Et alors, les différentes consignes qu'on retrouve dans la suite de ce passage sont mises en pratique, parfois très littéralement, par de nombreux juifs. Vous avez peut-être déjà vu des images de juifs pieux qui portent des lanières sur les bras et une boîte sur le front, les téphilim, qui sont comme des aides-mémoires pour marquer l'attachement à la loi, tellement c'est important. Vous avez peut-être aussi déjà remarqué la présence d'un rouleau sur le bord de la porte dans une famille juive, le mezouza, qui contient cette prière, le Shema Israël. Et on pourrait parler de l'ensemble des fêtes, des règles qui ont traversé les âges et qui ont permis aux descendants du peuple d'Israël d'affirmer et de conserver cette identité et qui a rendu facile, ou en tout cas possible, de reconstruire un État plus tard. Bon, et nous maintenant, que pouvons-nous faire pour transmettre notre foi ? Faut-il que nous reprenions l'ensemble des traditions juives pour faire pareil qu'eux ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais ne nous privons pas de prendre exemple de ces principes qui ont fait leur preuve. Alors maintenant, on va voir comment on peut faire concrètement en tant que parent. Être parent, c'est un métier. Et pourtant, c'est le seul métier qui ne se fait que de manière bénévole. Et même que ça coûte en temps, en énergie, en argent, en sacrifice. Et parmi les obligations de ce métier, il y a celle d'éduquer ses enfants. Alors en France, quand on parle d'éducation, on pense en général à ça, l'école. On a même subtilement cette idée que c'est d'abord le rôle de l'école et de l'État derrière d'enseigner, d'éduquer nos enfants, au lieu de se rendre compte qu'il y a aussi une forte responsabilité des parents. Et cette manière de penser, elle déteint même dans nos églises. Et parfois, on peut peut-être le constater en ce qui concerne l'instruction biblique. Nous autres parents, nous pouvons être tentés de nous décharger de cette responsabilité d'enseigner la Bible à nos enfants, nous décharger sur l'Église, sur la jeune Église ou école du dimanche, comme ça peut être dit ailleurs. Mais si on réfléchit au peu de temps que nos enfants passent à l'Église ou à la jeune Église en particulier, et qu'on compare ça à tout le temps qui reste dans le reste de la semaine, qui passe à l'école, avec leurs copains, avec nous à la maison, on se rend très vite compte que c'est bien insuffisant. Même si c'est très précieux, l'enseignement que les enfants reçoivent à l'Église, et notamment en ce moment. Et j'en profite pour saluer et remercier toutes les personnes qui sont impliquées remarquablement dans ce ministère auprès des enfants. Mais éduquer les enfants dans la foi, c'est bien plus que les envoyer à l'école ou à l'église. Et je vais vous proposer maintenant une décomposition de l'éducation en trois axes, même si en pratique c'est difficile de les dissocier. L'enseignement, l'exemple et les habitudes. Derrière enseignement, je vais mettre les verbes dire, expliquer, informer. Selon le Larousse, enseigner, c'est faire apprendre quelque chose à quelqu'un, le lui expliquer en lui donnant des cours ou des leçons. Ou encore, faire savoir quelque chose à quelqu'un. Dans le passage du Deutéronome que j'ai lu tout à l'heure, ainsi que dans les passages avant et après, on peut reprendre ces données-là. Afin qu'il l'enseigne à ses enfants, informe-en tes fils et tes petits-fils. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi. Ok, la partie information. Mais alors, quel contenu enseigner ? Ben, toute la vie, en général. Éduquer, c'est apprendre la vie. Le programme est vaste. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, entre autres. Mais la spécificité de l'enseignement des parents chrétiens, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui est contenu dans la Bible. Nous devons lire, expliquer, faire mémoriser la Bible avec nos enfants. Est-ce que nous le faisons vraiment ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ? Alors, on va peut-être pas monter une salle de classe dans notre maison ou notre appartement. C'est très bien si on a des temps formels d'enseignement, ou des rendez-vous au petit-déj le matin ou le soir avant de se coucher. Mais on se rend vite compte que le plus important, voire le plus efficace, ce n'est pas forcément ces moments prévus, formels, mais c'est les moments qu'on ne peut pas prévoir. Quand les enfants nous posent des questions, souvent on peut être pris au dépourvu, à l'improviste, ou qu'ils font des remarques, on dit « hop, hop, qu'est-ce que t'as dit là ?» Qu'est-ce qui est derrière ? Qu'est-ce que tu crois ? Ces moments, on ne peut pas les prévoir, mais on peut les susciter. On peut aussi nous-mêmes poser des questions à nos enfants. Et je lance le défi à tous les parents ici qui ont un enfant à la jeune église de leur demander ce qu'ils ont appris ce matin. Il faut être intentionnel dans notre éducation. Être intentionnel, c'est-à-dire qu'on a envie, on a une intention. Et ça passe aussi par être disponible pour nos enfants. Et bien souvent, j'ai été personnellement interpellé sur mon manque de disponibilité pour mes enfants. À force de courir entre mes responsabilités professionnelles ou l'église ou autres, j'ai dû me rendre compte que je passais pas assez de temps avec mes enfants. Et c'est pas parce que j'ai une femme géniale qui s'occupe très bien de mes enfants que je peux me permettre de déserter l'éducation de mes enfants. Non. Et là, je me suis déjà pris des claques en la matière. Pas physiquement. N'allez pas croire que ma femme est maltraitante. Bon, alors, revenons-en au contenu. Qu'est-ce qu'on doit enseigner ? Et ça ne doit pas se limiter à des histoires bibliques. Souvent, c'est la solution de facilité. Ben oui, j'enseigne la Bible à mes enfants, je lui lis des histoires. Adam et Ève, Noé, Abraham, Joseph, David, Daniel, Jésus et les apôtres. C'est bien ! Je vous encourage à lire ces histoires. Mais ça ne suffit pas. Les enfants ont besoin de grandir dans la connaissance de Dieu, Ils ont besoin de comprendre qui et comment est Dieu. Ils ont besoin de savoir que... Ils ont besoin de comprendre qu'ils sont pécheurs. Ça, c'est peut-être le contenu le plus difficile à faire comprendre. Mais ça, c'est un message très important. Faire comprendre que nos enfants sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et ils ont besoin de savoir que ce salut n'existe qu'en Jésus. C'est le seul chemin vers le salut. Et ils ont besoin de comprendre à quel point ils sont aimés, ils sont désirés de Dieu, quels que soient leurs défauts. Ils ont besoin d'apprendre la repentance, la grâce, le pardon. Bref, l'évangile, quoi. Le deuxième axe de l'éducation, c'est l'exemple. Ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons. Einstein a dit « Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. » Vous avez peut-être déjà remarqué à quel point les enfants sont attentifs à ce que font leurs parents et les imitent. Quel est l'exemple que nous montrons à nos enfants? Quel modèle, par exemple, donnons-nous dans notre manière de communiquer? Est-ce que nous passons notre temps à nous crier dessus, à nous faire du chantage affectif, ou à écraser l'autre pour exister? Ou est-ce que nous manifestons de l'amour dans notre manière de communiquer? Est-ce que nous reconnaissons nos torts? Ou au contraire, est-ce qu'on doit montrer qu'on a toujours raison? Est-ce que nous faisons grâce aux autres? Ou est-ce qu'on persiste jusqu'à ce qu'ils nous aient payé la dernière pièce? Est-ce que nous passons trop de temps derrière nos écrans? Ou devant? Est-ce que nous accordons plus d'importance aux gens? Ou à ce qui est matériel? Est-ce que nous vivons repliés sur notre propre famille, ses besoins, ses projets? Ou est-ce que nous sommes tournés sur les autres, leurs besoins? Et comment on pourrait les aider? Quels sont les préjugés que nous communiquons à nos enfants? Etc, etc. Il y a plein de choses où on peut faire passer des messages à nos enfants rien que par notre manière de vivre. Consciemment ou pas, notre manière de vivre est un enseignement puissant qui marque un modèle à suivre ou à ne pas suivre. Alors le troisième et dernier axe, c'est les habitudes. On va faire des choses à l'enfant qui vont être des répétitions, ça va être plus facile de continuer à les faire. On emporte dans la vie les habitudes qu'on a apprises en étant enfant. Par exemple, un enfant a pu avoir l'habitude de venir régulièrement à l'église avec sa famille. Personnellement, ça a été mon cas. Mes parents ayant été toujours très engagés dans l'église, c'était normal d'aller à l'église tous les dimanches, on ne se serait jamais posé la question. Où qu'on aille pendant les vacances, on trouvait toujours le moyen de trouver une église quelque part, parce que c'était normal, on allait à l'église. Et aujourd'hui même, si un dimanche je ne peux pas aller à l'église parce que je suis en vacances à un endroit où on ne peut pas y aller, ah, je ne suis pas bien, il me manque quelque chose. Mais ça, c'est parce que j'ai eu l'habitude quand j'étais enfant. Si on a eu l'habitude de faire la grasse mat, d'aller faire du vélo, d'aller à la pêche ou je ne sais quelle autre activité, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile d'adopter une nouvelle habitude. C'est un changement de cap culturel énorme. Les habitudes, c'est aussi ce que nous mangeons. C'est aussi la manière dont nous prenons soin ou pas de notre corps. Quelles sont les bonnes habitudes ou les mauvaises que nous avons héritées de notre enfance? Lesquelles transmettons-nous aux générations suivantes? Est-ce qu'on donne l'habitude aux enfants de lire la Bible, de prier en famille? Une habitude, c'est très long à construire et aussi à perdre. L'été dernier, avec Aude, on a été secoués par la lecture d'un livre qui fait la promotion du culte en famille. « Lire, prier, chanter en famille » de Donald Whitney. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que la simple mention du mot « culte en famille » suscite des sentiments contradictoires. D'un côté, il y a ce côté positif, on se dit « Ah ouais, c'est génial, c'est trop bien, il faut le faire. » Et puis, plus profondément dans votre cœur, il y a ce sentiment de culpabilité qui dit « T'es trop nul, t'arrives même pas à faire ça. » Et on peut vite avoir des représentations idéales de la famille chrétienne idéale qui tient des cultes en famille solennels tous les jours, je sais pas quoi. Et là, on se dit, wow, pff, laisse tomber, c'est pas pour moi. Alors ce matin, j'ai vraiment pas envie de nous culpabiliser sur ce sujet. Au contraire, je veux être un encouragement à progresser dans ce domaine. Ne vous fixez pas des objectifs irréalistes. Chaque famille est différente. On a des besoins différents, on a déjà des habitudes, on a des centres d'intérêt différents, nos enfants ont un âge différent entre quand ils sont en bas âge ou quand ils sont ados, ben, ça ne va pas être pareil, on ne va pas pouvoir faire les mêmes choses. Notre emploi du temps ne va pas être comparable d'une famille à l'autre, etc. C'est à chacun de trouver ce qui est adapté à sa famille et s'ajuster en continu. Alors, ce que le livre que j'ai cité propose, c'est une recette, entre guillemets, toute simple avec trois ingrédients. Lire, chanter, prier. Protéines, glucides et lipides. Après, ça laisse une grande marge de manœuvre pour préparer ces ingrédients et les assaisonner à notre guise. Il n'y a plus qu'à faire preuve de créativité, comme en cuisine. Alors nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors on a essayé deux trucs. La première habitude, on s'est dit, tous les soirs, avant de se coucher, on va avoir notre mini-culte en famille, où ça va être une chanson, une histoire de la Bible, on prie un coup, hop, au lit. C'est pas long, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est facile, nos enfants aimant beaucoup les histoires, c'était pas compliqué de les convaincre, ils aiment chanter aussi. Donc voilà, ça c'était facile, une fois que ça a été une habitude, c'est plus facile à continuer. La deuxième chose, on s'est dit, on va essayer de faire un truc un peu plus consistant le week-end. Alors cette fois-ci, c'est open bar, chacun a le droit de choisir un chant. Et pour changer un peu, au lieu de lire une histoire biblique, on écoute des chansons qui reprennent point par point un catéchisme chrétien qui a fait ses preuves, où ça permet d'aborder un point de doctrine chrétienne. Alors on peut dire, oh, la doctrine, la théologie, ça c'est pour les adultes, pas pour les enfants. Détrompez-vous. Et après, on a un temps de discussion. Vous avez compris ce que disait la chanson ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout simple à organiser. Et en tout cas, ça nous permet d'aborder d'autres sujets qu'on n'abordait pas forcément le soir avant de se coucher. Et un temps de prière. Et hier, on a essayé un nouveau truc. C'est de tenir un petit carnet. On dit, est-ce qu'on a 5 bonnes raisons de remercier Dieu pour ce qui s'est passé dans la semaine ? Que des choses simples. À vous de trouver ce qui marche pour vous, chez vous. En tout cas, si vous avez envie d'y réfléchir, vous cherchez des idées, n'hésitez pas à venir en parler avec moi, moi j'en ai. Et merci Mickaël qui nous a donné plein d'outils concrets tout à l'heure. Je pense que n'hésitez pas à prendre les papiers à la sortie. Voilà, il y a tellement de choses aujourd'hui, de ressources, qu'il ne faut vraiment pas qu'on se prive de trouver ce qui est adapté pour nous. Alors, on a beaucoup parlé de la famille nucléaire, parents-enfants. Maintenant, on va revenir sur la famille-église. J'ai dit que la transmission de la foi ne se limitait pas juste aux enfants dans nos familles chrétiennes. L'Église est investie de cette mission de transmettre la foi à tous ceux qu'elle croise sur sa route. Parce que l'Église, c'est aussi une famille spirituelle, mais bien plus que quelque chose d'abstrait. Quand on est régulier, qu'on fréquente une église, on se rend compte qu'on tisse des relations avec des gens, qu'on peut véritablement appeler nos frères et sœurs. Et il y a une entraide qui peut se vivre, un encouragement mutuel, et ça n'a rien à voir avec juste « moi j'assiste à mon culte sur Internet tout seul dans ma chambre ». Non, l'Église en vit une famille. Et je vous invite à vraiment vivre cette dimension familiale. Alors, la devise de notre Église illustre bien cette mission-là. Alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter encore une petite anecdote. Une fois, on était à table avec les enfants, et je ne sais plus comment le sujet est arrivé, mais c'était les 10 commandements. Et je leur dis, au fait, les enfants, voir si je leur avais déjà appris des trucs de base, vous savez c'est quoi les 10 commandements ? Priez, aimez, partagez ! Ah ! Là, je me suis dit qu'il y avait encore du travail, non seulement dans leur instruction biblique, mais aussi en mathématiques. En tout cas, c'est la preuve que Ça porte du fruit quand on martèle un message régulièrement. Donc tu vois Manu, de répéter ça aux annonces tous les dimanches. Les enfants, ils ont bien retenu, et les adultes aussi, ça rentre. Prier, c'est notre relation à Dieu. On peut être un exemple envers nos enfants, un exemple envers les nouveaux venus dans l'Église, par la relation que nous avons avec Dieu, par notre manière de prier. Que ce soit prier dans des réunions de prière, de manière, je veux dire, organisée, ou notre manière plus spontanée de prier, « Ah, j'ai ce problème, est-ce que tu peux prier avec moi ?» Enfin voilà, on peut prier de manière très spontanée. Et ça dit quelque chose, ça donne des exemples. L'Église peut montrer l'exemple de cette manière-là. Aimer, c'est le verbe qu'on utilise pour résumer l'amour qu'on peut avoir les uns envers les autres, en particulier au sein de la communauté. Et derrière ce verbe, on met aussi l'engagement qu'on peut avoir envers la communauté dans un service. C'est aussi l'entraide, la communion fraternelle, pour prendre un terme de jargon qui veut dire simplement d'être bien ensemble, l'amitié entre frères et sœurs. Partager, et c'est d'ailleurs ce verbe que nous mettons surtout la communication de l'Évangile à ceux qui sont autour de nous. Et on aime bien parler de nos projets phares, qu'on résume en partager notre joie à la ville d'Ozoir par les chorales et les flambeaux. Et c'est concret. Il n'y a pas que ces moyens-là, mais en tout cas, c'est le projet phare. Pour toutes ces choses, nous sommes tous concernés collectivement en tant qu'Église. On peut s'impliquer d'une manière ou d'une autre. On n'est pas tous appelés à aller animer des jeux pour les enfants ou chanter dans une chorale. Mais en tant qu'Église, on transmet, on véhicule un message, un héritage à ceux qui nous côtoient. Et avant de conclure, j'aimerais faire une dernière remarque sur la nature de ce que nous transmettons en tant que communauté. On a peut-être du mal à l'admettre, mais les messages les plus forts que nous transmettons, en général, ce ne sont pas ceux qui sont prêchés du haut de la chair, mais ce sont plutôt les habitudes que nous perpétuons. Si tout le monde le fait, c'est que c'est normal. Si personne ne le fait, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire. Et l'histoire de l'Église regorge d'exemples positifs comme négatifs. Alors, je n'ai pas trop le temps de développer, malheureusement, mais on va juste prendre un exemple, celui de la famille. Quel est notre rapport au mariage, au couple? Est-ce que notre manière de vivre va refléter plus la conception biblique du mariage, c'est-à-dire l'engagement dans l'amour, l'engagement inconditionnel jusqu'à ce que la mort nous sépare? Ou est-ce que c'est plutôt l'influence de notre société qui va se voir dans notre conception de l'amour ou du mariage? Si je résume un peu grossièrement, on peut dire que l'amour ou le mariage est vu comme un contrat de consommation basé sur des sentiments et fondé sur l'intérêt que chacune des parties peut en tirer jusqu'à ce que ça ne marche plus. C'est triste à dire. Pour nous, le mariage marque-t-il encore le début de l'engagement dans la vie conjugale? Ou est-il, comme dans la mentalité ambiante, une option folklorique qu'on pourra éventuellement envisager après quelques années de vie commune si on a assez de sous pour faire la fête? Parce que ça coûte cher, un mariage, hein? Bibliquement, il n'y a aucune indication qu'il faut que ça coûte cher, un mariage. Bon, pas la peine que j'en rajoute une couche, mais vous avez compris. On peut bien enseigner des bonnes choses, Bible en main, et derrière faire passer, véhiculer d'autres messages qui sont contradictoires simplement par nos habitudes, ce qu'on a l'habitude de faire ou de ne pas faire. Sommes-nous conscients de la responsabilité que nous portons tous collectivement dans ce sens? Y a-t-il des habitudes qui sont normales et qui, en fait, sont mauvaises? Et les enfants, ils voient ça et disent bon, « c'est normal, dans l'Église, il y a plein de gens qui font ça ». Je n'ai pas d'idée en tête particulière, mais je pense qu'on peut se laisser interpeller et réfléchir en quoi ma manière d'agir, même si je ne suis pas un responsable de l'Église, les enfants le voient, les nouveaux le voient, et ils vont croire que c'est normal, alors que ça ne l'est peut-être pas. Alors il est grand temps que je conclue. La transmission de la foi est une mission dans laquelle chaque chrétien est impliqué. Qu'il soit parent, engagé dans un ministère auprès des enfants, ou non, tout membre d'Église est impliqué dans cette mission-là. et les enjeux sont suffisamment cruciaux pour que nous prenions le temps d'y réfléchir sérieusement et que nous nous engagions fermement à être de bons éducateurs. Que cela soit au travers des enseignements que nous pouvons dispenser à quelque niveau que ce soit, ou que ce soit par l'exemple bon ou mauvais que nous donnons. Quelles habitudes transmettons-nous ? J'invite à présent chacun d'entre nous à avoir une pensée pour toutes les personnes que le Seigneur a utilisées pour nous enseigner, que ce soit par l'instruction qu'on a reçue, l'exemple de vie qui nous a influencés, ou les bonnes habitudes qui nous ont été utiles et précieuses pour grandir dans la foi. Que de nos cœurs monte un parfum de louange pour remercier Dieu pour ces personnes qui nous ont conduits à la foi. Deuxième appel que je lance, c'est que peut-être ce matin, le Seigneur te montre que tu es à côté de la plaque, que l'exemple que tu montres dans ta famille ou dans l'Église ne colle pas avec l'instruction qui vient de Dieu. Je veux te dire qu'il n'est pas question que tu restes avec cette culpabilité au fond du cœur. Le seul qui aime la culpabilité et qui veut l'attiser, l'entretenir, la maintenir, c'est Satan. Dieu, lui, veut nous libérer, nous délivrer de la culpabilité. Il veut nous relever. C'est précisément pour cela que Jésus a accepté de subir le pire châtiment. Saisis la main que Jésus te tend, il veut te sortir de cette culpabilité. Et le troisième et dernier appel que je lance, c'est simplement de nous rappeler quel est l'objectif de l'instruction qui vient de Dieu. Les commandements, les ordonnances, les lois que l'Éternel a communiquées à son peuple et celles qu'il nous donne aussi aujourd'hui, ça a un objectif important pour le peuple. C'est son bonheur. J'ai relevé dans ces différents passages du Deutéronome plein de choses que j'ai soulignées en vert dans mon passage. Il y en a plein. Que Dieu veut bénir son peuple. Il veut que son peuple soit heureux. Il veut qu'il entre dans un pays où coule le lait et le miel, qu'il jouisse d'une vie longue, que ses enfants soient nombreux, etc., etc. Si Dieu nous donne des commandements, ce n'est pas pour nous empêcher de tourner en rond. C'est pour qu'on soit heureux. Et quand on est conscient de ça, c'est avec beaucoup plus de joie et de plaisir qu'on a envie d'obéir à Dieu. Je vais prier pour clore ce temps. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un bon Père. Tu es un Père magnifique qui non seulement nous a conçus, nous a voulus, nous a désirés, mais qui veut nous faire grandir, qui veut que nous nous épanouissions. Cela est vrai au niveau individuel, mais cela est vrai aussi au niveau collectif, Seigneur. C'est vraiment une bénédiction que d'entrer dans ce projet de ta famille, de ton peuple. L'Église, c'est ton peuple, c'est ta famille et c'est ce projet que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te prier ce matin, si certains d'entre nous ne se sentent pas encore faire partie de cette famille ou se sentent en froid ou séparés de cette famille, Seigneur, je veux te prier pour que tu libères, que tu délivres. Seigneur, on a parlé de culpabilité. Seigneur, merci parce que tu ne veux pas nous laisser dans la culpabilité. Tu nous sauves, tu nous relèves. Et ça, c'est le message de l'Évangile que nous proclamons ici. Seigneur, aide-nous à vivre cette délivrance par rapport au péché. Aide-nous à vivre cet amour à 360 degrés. Aide-nous à vivre cette foi, croyance, confiance, action, et qu'elle puisse être transmise de manière vigoureuse. Et Seigneur, je te prie ce matin tout particulièrement pour les enfants qui nous sont confiés. Seigneur, ce n'est pas facile de grandir dans un monde qui t'est hostile, qui nous est hostile. Et Seigneur, on veut te demander d'équiper chaque enfant pour qu'il puisse grandir et s'épanouir en toi. Seigneur, que ta parole puisse être communiquée de manière claire et compréhensible et de manière adaptée à chaque enfant, pour qu'ils puissent être fermement enracinés en toi. Seigneur, merci parce que si nous sommes là, c'est que tu as mis, pas sur notre route, mais avant nous, des personnes qui ont pu accomplir cette transmission de la foi. Et que ça, c'est vraiment un miracle qui vient de toi. Seigneur, toute chose t'est due et nous voulons te glorifier, te dire merci pour tout cela. Encourage-nous chacun ce matin pour cet engagement dans cette transmission de la foi. Amen. Et n'oubliez pas, parents, demandez à vos enfants ce midi ou ce soir ce qu'ils ont appris ce matin.